VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, la prison centrale de Makala à Kinshasa a été attaquée tôt ce mercredi par des miliciens d'un groupe sécessionniste politico-religieux. Les assaillants sont parvenus à faire évader leur chef Nemwanda Nsemi et une cinquantaine de personnes selon le gouvernement congolais. Le député Nemwanda Nsemi dirige un mouvement politico-religieux prônant la sécession du Congo central, province de l'ouest de la RDC. Il est accusé d'avoir mené une série d'attaques meurtrières contre des symboles de l'État depuis la fin de l'année 2016, ce qui a conduit à son arrestation début mars par la police après deux semaines de siège de sa résidence à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, la police est en train de poursuivre les personnes qui ont attaqué la prison de Makala. Et toujours en RDC, le gouvernement de transition finalement investi mardi à Kinshasa par les députés de l'Assemblée nationale. Au terme d'une plénière qui a duré 9 heures et qui a été marquée par la sortie de la salle d'une centaine de députés de l'opposition, le Premier ministre Bruno Tshibala a reçu le feu vert des élus pour conduire le pays vers des élections durant cette période de transition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
336 voix pour, une seule abstention, 0 voix contre, c'est le résultat du vote qui a sanctionné l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala à l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017. En dépit de la controverse suscitée par le rejet de la motion incidentielle du député de l'opposition Koko Moulongo, ce qui a poussé les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle à coups de sifflets et de vuvuzela, le gouvernement d'Union nationale chargé de conduire la RDC vers les élections fin 2017, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, a bien reçu le feu vert des députés après la présentation par le Premier ministre de son programme. Concernant les élections, Bruno Tshibala a affirmé que son gouvernement a pour ambition d'offrir à la RDC les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu. Le social, il en a également été question lors de cette cérémonie d'investiture. Alors que la crise a atteint des proportions inquiétantes avec la dépréciation quotidienne du franc congolais, Bruno Tshibala a annoncé une batterie de mesures urgentes pour arrêter l'hémorragie. Le gouvernement de transition entre donc en fonction dans un contexte particulier. Le rassemblement que dirige Félix Tshisekedi a qualifié sa nomination de violation manifeste de l'accord du 31 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Centrafrique, la toute dernière flambée de violence dans le pays a fait au moins 26 morts à Bangassou dans le sud-est, en plus des 6 casques bleus tués la semaine dernière. Les détails avec Abdourahmane Dia.
La mission des Nations Unies en République centrafricaine MINUSCA a fait état de 26 morts dans l'attaque samedi d'un groupe armé contre le quartier musulman de Bangassou. Antoine Bao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine, affirme de son côté que ses équipes ont enterré 115 victimes. Médecins sans frontières a évoqué la présence de 17 cadavres dans une mosquée où la MINUSCA a libéré lundi des civils qui y avaient trouvé refuge après l'attaque d'une milice anti-Balaka. Samedi, un casque bleu marocain a été tué. 5 autres, 4 Cambodgiens et un autre Marocain, avaient péri dans l'attaque de leur convoi le 8 mai dernier. Pour le général Bala Keïta, commandant de la force onusienne, le pire a eu lieu à Bangassou et ses hommes ratissent la zone à la frontière avec la République démocratique du Congo. Selon la HCR, au moins 2750 réfugiés centrafricains sont arrivés ces derniers jours dans l'extrême nord de la RDC.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en Afrique centrale. Au Cameroun, les médecins syndicalistes ont dénoncé au deuxième jour de leur grève dans les hôpitaux publics les cas d'intimidation et les pressions extérieures visant à étouffer leurs revendications. Le point sur cette situation avec Emmanuel Jules Ntap, notre correspondant à Yaoundé.
Mardi, à mi-journée, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé. Officiellement, le ministre serait venu présider une réunion de travail. Rien à voir avec la grève des médecins, selon un responsable de la structure qui a requis l'anonymat. Hier, certains médecins de cet hôpital ont été aperçus avec un brassard noir en guise d'adhésion à la grève. Et dans les services de diabétologie et de neurologie ce jour, certains médecins n'ont pas reçu les patients. Qu'est donc venu faire le ministre de la Santé publique à l'hôpital central de Yaoundé dans un contexte de grève ? Pour Dr Basson, président du syndicat des médecins du Cameroun, joint au téléphone depuis Bamenda, en zone anglophone du Cameroun, cette descente sur le terrain est loin d'être anodine.
Pourquoi tout cela? Tous ces directeurs-là ont tenu de parler au Cameroun hier matin des réunions. Pourquoi ils tiennent tous des réunions le même jour, la même heure le matin? Histoire de faire sortir les médecins de leur lit et de les inviter à l'hôpital. Le gouverneur devait aller aujourd'hui à l'hôpital à la cantine de Douala. Mais on se rend compte qu'il y a des menaces. On appelle certains médecins au téléphone de la maison de venir à l'hôpital. Ils passent de service en service avec des listes et ils disent aux médecins, si tu grèves, tu quittes ton nom. Si tu grèves pas, tu ne quittes pas ton nom. Là, il y a autant d'intimidation.
Déjà, à moins 5 jours du début du mot d'ordre de grève dans les hôpitaux publics, les trois principaux responsables du syndicat des médecins du Cameroun avaient été affectés dans les zones les plus reculées du pays sous décision du ministre de la Santé publique. Parmi eux, Dr Patrick Ndoudoumou, secrétaire général du syndicat de passage à Yaoundé.
Qu'avons-nous fait pour mériter ces affectations disciplinaires? Est-ce parce que nous avons demandé que le médecin ne touche plus 105 685 francs? Est-ce parce que nous avons demandé que les médecins ne soient plus affectés sans salaire? Est-ce parce que nous avons demandé de maintenir les médecins plus longtemps en fonction de passer l'âge de retraite de 55 à 65 ans? Ou alors est-ce parce que nous avons dit l'assurance maladie, c'est urgent, ça devient urgent parce que les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens?
Dimanche, à la veille de la grève, une intervention du président du syndicat des médecins du Cameroun sur le plateau de la chaîne de télévision privée Canal 2 International avait été annulée à la dernière minute. Nos sources, bien informées et sous anonymat dans cette chaîne, recusent cette version des faits et parlent plutôt de pression extérieure visant à étouffer la grève des médecins au Cameroun. Pour sa part, le gouvernement camerounais maintient que le syndicat qui appelle à la grève des médecins dans les hôpitaux publics est illégal. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA, Afrique.
Afrique de l'Ouest, au Niger, un acteur de la société civile et un responsable politique sont aux arrêts. Il est reproché au premier membre d'un mouvement dit pour la révolution démocratique le délit d'incitation à la révolte populaire. Quant au second, qui est président du regroupement des partis de l'opposition, on ignore les raisons de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey, nous dit notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa.
Abdrahmane Issar, le militant du mouvement pour la révolution démocratique au niveau de la région d'Agadez, est lui fixé sur son sort. Il a en effet été présenté après une garde à vue de 48 heures à un juge qui l'a inculpé et placé sous mandat dépôt pour le chef d'accusation d'incitation à la révolte populaire suite à une publication sur Facebook. Le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le regroupement des partis politiques de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, est lui au terme ce mercredi. Mercredi matin des 48 premières heures de sa garde à vue à la police judiciaire de Niamey sans savoir ce qu'on lui reproche selon des responsables de l'opposition qui étaient mardi après-midi face à la presse. Pour ces derniers, le régime en agissant ainsi a touché le fond de l'intolérable et sera responsable de ce qui adviendra après l'expiration des délais réglementaires de la garde à vue. L'opposition a exigé, comme un collectif d'organisation de la société civile, la libération de Max et de tous ceux qui sont privés de leur liberté pour leur opinion. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant. Lors de son premier déplacement à l'étranger, le président des États-Unis, Donald Trump, prononcera dimanche prochain à Riyad un discours sur une vision pacifique de l'islam. Les détails avec Claire Morin-Gibour.
Ce discours sera prononcé devant les dirigeants de plus de 50 pays musulmans. Une véritable tribune pour le président américain qui devrait insister sur l'engagement des États-Unis envers ses partenaires musulmans. Le général McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a donné quelques détails supplémentaires. Donald Trump s'exprimera également sur la nécessité d'affronter les idéologies radicales et sur ses espoirs pour une vision pacifique de l'islam. Le discours du président américain est particulièrement attendu, les détracteurs de Donald Trump lui reprochant son décret anti-immigration qui, selon eux, attise l'islamophobie. Le président américain entame samedi à Riyad son premier déplacement hors des États-Unis, qui le mènera aussi en Israël et au Vatican. Autre étape obligée pour le président américain, le sommet de l'OTAN à Bruxelles et le sommet du G7 à Catane en Sicile.
À noter que le président soudanais Omar al-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour génocide, a été invité au sommet de Riyad dimanche entre le président américain Donald Trump et les dirigeants arabes et musulmans. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un responsable saoudien qui a requis l'anonymat et n'a pas été en mesure de dire si le président Béchir viendrait effectivement au sommet. Merci de votre attention.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.